Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Je sais que vous êtes nombreux ce soir à nous écouter en prenant la route. Destination le long week-end de l'Ascension et cette petite dose d'insouciance qui semble enfin nous tendre tout doucement les bras. Bon alors soyez prudents quand même. Une étude publiée aujourd'hui nous apprend que plus d'un automobiliste sur deux reste accro au téléphone au volant. Donc vous là s'il vous plaît raccrochez. Elle nous révèle aussi, sans surprise, que les conducteurs parisiens et les conducteurs marseillais sont les plus énervés. Ceux du centre-Val de Loire, les plus endormis au volant, c'est pas forcément moins dangereux. Les ch'tis étant ceux qui appuient le plus facilement sur le champignon. Alors surtout, restez zen, comme les automobilistes d'Occitanie, remarqués pour leur zénitude. Et n'oubliez pas que la route est belle quand on finit par arriver entier à destination. Bonsoir Robert Nuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres et les grands titres dans l'actualité de ce mercredi 12 mai.
Et on ira à la gare Montparnasse dès le début de ce journal. 1 million de voyageurs attendus dans les trains entre ce soir et dimanche. De la musique à fond dans les oreilles, la foule qui chante, la fosse qui hurle. Concert test à Paris le 29 mai autour du groupe Indochine. Et puis inquiétude au Proche-Orient, 5e jour de tension entre Israël et Gaza.
Deux invités dans l'heure qui vient. Adrien Quatennens, député La France Insoumise, ça sera à 18h15. Et puis Hélène Ségara, le grand retour d'Hélène Ségara, ce sera à 18h35 dans RTL Soir. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui il y avait une perturbation, hier il y avait une autre perturbation, et demain il y aura une autre perturbation.
Vous avez tout compris. En fait demain il y en a une qui va partir par l'est et une autre qui va arriver par le sud-ouest l'après-midi. Alors tout ça va donner un ciel bien nuageux, humide sur les trois quarts nord du pays. Pas de grosses averses sauf vers la Normandie et des averses orageuses l'après-midi entre la Bretagne et les régions centrales. Il y aura quand même du soleil dans le sud-ouest le matin, mais ça va pas durer, les pluies vont vite arriver. Seule la Méditerranée et la Corse profiteront du beau temps toute la journée, mais avec beaucoup de vent, sous des températures qui vont peu évoluer finalement, comprises entre 13 et 22 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Changer d'air après un troisième confinement. L'heure des départs a sonné pour le pont de l'Ascension. 1 million de voyageurs attendus dans les gares d'ici dimanche, selon la SNCF. Sébastien Rouxel, vous êtes gare Montparnasse à Paris et ils sont nombreux, ces Français, à avoir profité du télétravail pour lever les voiles.
Ah oui, Odile, il y a du monde ce soir et dans la foule face aux panneaux d'affichage, comme un air d'été, je vois des planches de bodyboard, des clubs de golf passer. Daniel, lui, porte un sac rempli de raquettes de tennis.
Alors, on va dans le sud-ouest, à côté de Osgore. On est assez excité en fait. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. On n'est pas parti depuis l'été dernier. On a respecté toutes les règles sanitaires, donc maintenant on se lâche. On va faire du sport. S'il fait beau, on fera du surf. C'est un avant-goût de l'été.
Agnès, elle attend son train direction Bordeaux avec sa fille. Elle a du mal à tenir en place.
On en a un peu besoin là, quand on travaille et qu'on s'occupe d'un enfant, quand il faut faire l'école à la maison. On est un peu fatigué. On a besoin de s'évader et de calme et de beauté.
Juste derrière, je vois Charlène, elle est en train de fendre la foule avec un très gros sac, 34 kilos exactement.
Parce qu'on va faire un voyage à vélo, fait Nantes-Bordeaux.
Quand on dit qu'il faut profiter de l'Ascension pour le grand air, vous avez pris au pied de la lettre.
Ah, moi je l'ai carrément pris au pied de la lettre, je pense que je vais bien prendre l'air, je vous le confirme.
Et la pluie.
De la pluie, oui, car c'est bien ce qu'il attend à son arrivée, mais ça ne l'empêchera pas de planter sa tente ce soir pour commencer à pédaler dès demain matin.
Sébastien Rouxel en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Attention sur les routes, on en parlait tout à l'heure, trafic chargé. En Ile-de-France, on compte déjà 450 km de bouchons. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bison futé qui voit rouge dans le sens des départs ce soir dans la région et ce sera orange, c'est déjà orange partout ailleurs.
Comme un sentiment de liberté retrouvé J-7 avant la réouverture des musées, des terrasses, des cinémas. Quant à la musique, un peu de patience. Souvenez-vous d'abord du public en liesse des smartphones allumés dans la foule et de cette ambiance.
J'ai demandé à la Lune Indochine.
Un concert test aura bien lieu le 29 mai à Paris-Bercy avec Indochine à l'affiche. 5000 chanceux vont y assister. Odile Pouget, bonsoir.
Bonsoir.
Qui sont-ils ?
Alors des adultes entre 18 et 45 ans habitant l'Île-de-France.
Je ne peux pas y aller.
C'est dommage. Trop vieux. Inscrits sur le site ambitionliveagain.org et ensuite tirés au sort. Des spectateurs un peu particuliers soumis à des critères d'inclusion très précis. Pas de contact par exemple dans les deux dernières dernières semaines avec une personne infectée. Pas de pathologie risquant de leur faire développer une forme grave du Covid. Dans la fosse, ils seront debout, tout près les uns des autres. Pas de buvette, pas de stand pour la vente de posters ou de t-shirts. Tous auront été testés sur place dans les 72 heures précédant le concert et les cas positifs écartés. Dans la salle, des caméras ultra performantes pour détecter s'il y a relâchement dans le port du masque, obligatoire bien sûr. Une expérimentation sur laquelle Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena Paris-Bercy, fonde beaucoup d'espoir pour une reprise des concerts en septembre. Il était l'invité de RTL Midi.
Elle va pouvoir démontrer, on l'espère, que les jauges debout, pleines jauges, sans distanciation, mais en respectant un protocole assez strict, n'engendre pas de propagation plus importante que la vie courante.
Car en parallèle de ces 5000 spectateurs, un groupe contrôle composé de 2500 personnes soumis au même protocole dépistage questionnaire continuera de vivre normalement, mais pas de concert pour eux évidemment.
Oh, c'est pas de chance, c'est pas la bonne pioche.
Tout le monde sera à nouveau testé 7 jours plus tard et les résultats seront publiés avant l'été.
Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. Et puis une précision du gouvernement pour le 19 mai, pas de jauge pour les petites terrasses de café, de restaurants et de bars, c'est celles qui ont la place pour 10 tables.
RTL Soir, il est 18h06. La traque se poursuit ce soir dans les Cévennes. L'homme qui a tué son patron et un de ses collègues dans le Gard est toujours recherché.
280 gendarmes sur place, 8 hélicoptères et le GIGN avec 7 difficultés supplémentaires. Le suspect, un chasseur, connaît la zone et serait lourdement armé. De quoi créer la psychose dans le village des Plantiers et aux alentours, Patrick Tégéro.
Le va-et-vient des voitures rapides de la gendarmerie, le grondement lointain des hélicoptères ont encore rythmé toute cette journée et l'on se prépare à une nouvelle nuit d'angoisse. Claude habite à l'entrée de Saint-André-de-Valborgne. Les opérations de recherche ont lieu juste sur l'autre rive du Gardon.
J'ai mal dormi. Ça s'est passé à 500 mètres avant le doigt de là. Donc on pensait que ça soit plus rapide pour l'attraper. Quoi. Ils le trouveront, mais il faudra des jambes.
À Sommane, le village des victimes, Frédéric a les yeux gonflés.
J'ai très très mal dormi. J'ai pensé à toutes les personnes qui sont touchées, de près, de loin, les familles. On connaît tout le monde. Forcément, ça touche. Hein. J'ai passé une nuit. Les hélicos qui ont tourné plus ou moins toute la nuit. Bon, on n'était pas tranquille.
Anthony est un solide gaillard, chasseur, et il est très inquiet.
On essaie de rester chez nous. Il faut laisser faire les forces de l'ordre et puis on verra bien à la suite.
Pierre, soit vous avez le fusil à portée de main.
Ah oui, moi il est dans ma chambre. Ah oui, moi il est dans ma chambre. La nuit, je le laisse à côté de moi. Ben, on ne sait pas après de quoi il est capable.
Laurette Angélier, le maire de Sommane.
Pour l'instant, on en est à quand est-ce qu'il attrape. Qu'on puisse se sentir plus serein pour justement envisager comment aider ceux qui sont dans la peine. Quoi.
Et ce soir encore, un sniper est en liberté, quelque part dans la forêt.
Patrick Tégéro dans le Gard pour RTL. Le procureur de la République de Nîmes appelle à l'instant le fugitif des Cévennes à revenir à la raison et à déposer les armes. 12 ans après le crash du Rio, Paris, peut-être un procès. Air France et Airbus sont renvoyés en correctionnel pour homicide involontaire. La tenue du procès dépendra des recours en cassation de la compagnie et du constructeur. Le 1er juin 2009, le vol Rio-Paris s'abîmait dans l'Atlantique, faisant 228 morts. Ophélie Touliou a perdu son frère dans le crash. Elle se dit soulagée après des années de combat.
Nous, aujourd'hui, on accueille cette décision comme une petite victoire malgré tout, même si effectivement, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est qu'on se bat pour un procès, on ne se bat même pas pour une condamnation. 12 ans de procédure pour juste obtenir un débat public. Et en fait, la décision qui est prise aujourd'hui nous conforte dans notre approche des choses, à savoir qu'il y a nécessité d'un débat public pour pouvoir mettre à plat les choses et qu'enfin la vérité éclate. On se doutait bien qu'Airbus et Air France ne s'en arrêteraient pas là. On n'a pas assez souffert en fait. Il nous faut encore passer par la cassation. De toute façon, dans ce type d'affaires, on espère toujours que les familles se fatigueront. Pas de bol, on n'est pas fatigué et on ira jusqu'au bout.
Ophélie Touliou qui a perdu donc un frère dans le crash du Rio Paris. Propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard. On marque une toute petite pause et puis on va aller, entre autres, à Roland-Garros.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Plus de 1000 roquettes tirées vers Israël, des frappes continues sur la bande de Gaza et la crainte d'une nouvelle guerre. Il faut bien parler d'une nouvelle guerre dans la région.
On compte 62 morts depuis lundi, 6 côté israélien, 56 côté palestinien. Session infructueuse au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis sont en position délicate entre traditionnel soutien à Israël et une volonté d'apaisement avec les Palestiniens. Une question: que va faire Joe Biden, Lionel Gendron ?
Un premier signe concret il y a quelques minutes. Il envoie sur place un émissaire pour exhorter les deux parties à la désescalade. Les affrontements obligent en effet le président à s'impliquer, à accélérer. C'est vrai que Joe Biden, candidat, n'a pas pris d'engagement sur le conflit israélo-palestinien. Son urgence, la gestion de la pandémie à l'extérieur, le réchauffement climatique ou un éventuel accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis n'ont par exemple pas encore nommé de nouvel ambassadeur en Israël. Certes, Washington est toujours l'allié de Tel Aviv, mais le soutien est moins inconditionnel que sous Donald Trump. L'administration Biden est ainsi favorable à une solution à deux États, mais sans avoir de plan. Ses prédécesseurs ayant échoué, le président américain n'a pas pris de grands engagements. Pour l'instant, l'option de Joe Biden semble être gérer le conflit, mais pas le résoudre.
Un conflit qui s'aggrave. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, on apprend à l'instant qu'à Gaza, c'est un édifice d'une dizaine d'étages qui vient d'être détruit, semble-t-il, par des frappes israéliennes, annonce faite par l'agence France Presse.
Tandis qu'en France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, appelle à tout faire pour éviter un nouveau conflit meurtrier.
Pardon. Allez-y.
Mais non, je vous en prie, passons tous les deux au sport et en football. Demi-finale de la Coupe de France ce soir, Montpellier reçoit le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 21h.
Et puis, vous insistiez pour en parler, Roland-Garros, la balle jaune qui va résonner sur les courts très bientôt. La Fédération française de tennis a précisé dans quelles conditions ce tournoi allait se dérouler.
Au top départ le dimanche 30 mai, un peu plus de 5000 spectateurs seront accueillis jusqu'au 8 juin. Ensuite, les règles changent avec l'étape 3 du déconfinement, Christian Olivier.
En réalité, les organisateurs se mettent en conformité avec le calendrier des réouvertures révélé par le Premier ministre mardi dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Jauge de 35% jusqu'au 8 juin, soit 5388 spectateurs quotidiens. Puis à partir du 9 juin, jauge à 65%, soit 13146 spectateurs par jour. Ce public pourra déambuler sur les 12 hectares de la Porte d'Auteuil pour être réparti sur différents sites, 6 au total, du Châtrier au cours numéro 14 afin d'assister au match. Et là, pas de surprise, couvre feu pour tout le monde, les 9 premières sessions nocturnes. Grande nouveauté d'un tournoi aux installations métamorphosées se joueront à huis clos, sauf la toute dernière, celle du mercredi 9 juin. Le gouvernement ayant décalé le couvre-feu de 21h à 23h à partir de cette date. Mais le public devrait être invité à quitter les lieux 30 minutes avant l'horaire fatidique, quand bien même Federer se ferait manger tout cru par Benoît Paire.
Je vous trouvais tellement sympathique jusque-là.
Ultime précision, comme prévu, le pass sanitaire ou un test négatif de moins de 48 heures sera exigé.
Qu'on m'apporte de l'oxygène.
Et quelques billets sont encore à vendre sur le site de la fédération, dont l'organisation ne devrait souffrir d'aucun trou dans la raquette.
Vous allez voir qu'il va vous manger, Roger Federer. Vous allez voir, c'est ça la bonne nouvelle. Elle arrive, la bonne nouvelle. Merci Christian Olivier.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Allez, on va parler foot avec une belle initiative des Néerlandais. Après une saison à huis clos, l'Ajax Amsterdam a tenu à remercier ses fidèles abonnés. Le club a fait fondre son trophée de champion des Pays-Bas pour la saison 2021 et a fabriqué des étoiles. Chacun des supporters abonnés au stade en a reçu une par courrier. Imaginez, trophée de 2,75 kg. Il a donc été transformé en 42 000 étoiles.
Il y en a qui ont de l'imagination. Merci beaucoup à vous, Odé. À tout à l'heure. Dans quelques secondes, Adrien Quatennens, celui que beaucoup voient comme la relève à la France Insoumise, est l'invité d'actualité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Otto. RTL Soir, Thomas Otto.
Il est député du Nord, il est aussi le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, c'est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Adrien Quatennens.
Bonsoir, Thomas Otto.
Alors, on entre tout doucement dans l'ère du déconfinement, un déconfinement progressif, un déconfinement que le gouvernement présente comme prudent. Quel regard vous portez-vous sur les mesures annoncées par Jean Castex? Est-ce qu'elles vous conviennent?
D'abord, je souhaite de tout cœur que ça marche. Parce qu'on a besoin de pouvoir se retrouver, de respirer, de s'émouvoir dans les salles de cinéma ou dans les salles de spectacle. Je m'alerte simplement du fait qu'une nouvelle fois, à part le calendrier, je ne vois pas d'alternative au confinement comme nous le proposions, c'est-à-dire des moyens de limiter drastiquement par des protocoles sanitaires ou l'organisation de roulement la circulation du virus. Or, je vois comme vous, Thomas Otto, qu'Emmanuel Macron est peut-être en train d'opérer un virage. Il fait moins de la gestion de crise sanitaire, un peu plus de politique à l'approche de l'élection présidentielle.
C'est un déconfinement politique ?
C'est sans doute un déconfinement hasardeux, en tout cas, je le crains. Parce que, souvenez-vous qu'Emmanuel Macron nous disait que pour déconfiner, il fallait atteindre le seuil de, je crois, 5 000 cas 5 000 par jour. On est plutôt autour de 30 000. Juste avant de rentrer dans votre studio, je m'entretenais avec l'un de mes contacts au CHU de Lille qui m'expliquait que la situation est encore très difficile pour nos soignants.
Donc d'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est trop tôt, en fait? Si on a tous envie, comme vous, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, c'est trop tôt?
Je vais pas vous dire que c'est trop tôt pour la raison que nous-mêmes nous appelions à la réouverture. Mais cette réouverture doit être conditionnée. Et je ne vois pas pour le moment qu'Emmanuel Macron est prévu de mettre partout dans les salles les purificateurs d'air, d'organiser les demi-jauges partout où on peut le faire, de pourquoi pas réquisitionner des bâtiments, de recruter du personnel. Je pense notamment par exemple aux professeurs. Mais même regardez, hier il y avait une mobilisation dans 117 villes de France des soignants, la réanimation, qui réclament des effectifs supplémentaires, des hausses de salaire. On peut parler de passe sanitaire, hein, mais je crois d'abord et avant tout que c'est sur les moyens pour épidémie.
C'est deux sujets différents, le déconfinement et les problèmes de l'hôpital qui sont réels.
Je crains qu'Emmanuel Macron, s'il n'organise pas les alternatives au confinement, telles que nous les avons proposées avec Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de novembre, s'il ne les organise pas, je crains qu'il peut déjà, peut-être, nous annoncer la date du prochain confinement. On n'est pas à l'abri que la situation sanitaire se dégrade si on n'organise pas les alternatives.
Donc
voilà
ce
que nous disons.
Donc vous n'avez pas confiance dans les mesures qui ont été prises.
Je suis satisfait du fait qu'enfin un calendrier et des perspectives nous soient donnés, mais je crains que le tout soit hasardeux, en effet.
Le pass sanitaire, vous l'évoquiez, qui après avoir été rejeté, a finalement été adopté par l'Assemblée hier soir. Vous n'en voulez pas.
Alors d'abord, sur ce point, Thomas Soto, parce que ne faut pas que ça passe comme une lettre à la poste. Les Français doivent savoir ce qui s'est produit hier à l'Assemblée nationale et qui se produit d'ailleurs assez régulièrement. Quand la République en marche est battue dans un vote à l'Assemblée nationale, le gouvernement organise les conditions d'une seconde délibération, souvent tard dans la nuit, avec l'assurance du fait qu'un nombre de députés suffisant pour retourner la situation lui permette de gagner le vote.
Son allié, le Modem, n'avait pas voté, donc a participé au rejet du premier vote.
Il avait donc été mis en minorité.
Ils avaient des demandes, notamment la fin de la période de transition de l'état d'urgence sanitaire, non pas fin octobre, mais fin septembre. La majorité a dit OK au Modem, qui du coup a accepté de voter.
Vous comprenez quand même que le vote avait eu lieu, et pour nous, parlementaires d'opposition, nous avions voté. Et on refait le vote à l'issue. C'est quand même une drôle de manière.
C'est un déni de démocratie ?
Clairement, ça veut dire que ce Parlement est devenu une chambre d'enregistrement des désidératas du président de la République. Une raison de plus pour moi de vous dire que l'urgence, c'est d'en finir avec cette 5e République à bout de souffle qui concentre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme et de son gouvernement parallèle qu'est le Conseil de défense, et de donner un peu de respiration démocratique à tout ça en convoquant une assemblée constituante pour la 6e République.
Vous regardez vers 2022, moi je regarde vers le déconfinement, le pass sanitaire. Pourquoi, au-delà de ces considérations politiques, vous n'en voulez pas ?
Alors d'abord, il y a la question des inégalités. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès librement, comme on le souhaiterait en tout cas, au vaccin, et dans des circonstances qui permettraient à tous de se faire vacciner. Mais surtout, Thomas Soto, pour venir travailler aujourd'hui, est-ce qu'on vous a réclamé un pass sanitaire ? Absolument pas. Si vous décidez, tout à l'heure, vous ne pourrez plus, il y a le couvre-feu, mais d'aller faire vos courses pour aller consommer et produire, on n'a pas demandé aux gens un pass sanitaire. Donc plutôt qu'un pass sanitaire qui va en plus ne concerner que le temps de liberté et de loisirs, je crois que le plus efficace, c'est 1. Monter en puissance de la vaccination, 2. Des protocoles sanitaires et des alternatives au confinement. Et notez d'ailleurs que sur la montée en puissance de la vaccination, on a vu qu'après que Joe Biden ait annoncé sa volonté de lever les brevets, M. Macron s'est aligné, alors que depuis des semaines que nous le réclamons avec Jean-Luc Mélenchon, il s'y est opposé. La France avait voté contre à l'OMC. Mais j'observe que cet après-midi au Parlement européen encore, les députés du groupe de La République En Marche mettent des bâtons dans les roues à cette levée des brevets pour satisfaire le laboratoire pharmaceutique. Donc il y a une duplicité permanente entre les paroles et les actes qui n'est pas supportable dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire.
Est-ce que vous boycotterez le pass sanitaire ? Est-ce que vous dites n'allons pas dans les restos qui l'exigeront, n'allons pas dans les salles de spectacle pour les grands concerts de plus de 1000 personnes qui le demanderont ou pas ? Quelle est votre position là-dessus ?
Je souhaite mener la bataille pour qu'on entende que plus qu'un pass sanitaire, ce dont nous avons besoin, c'est de véritables protocoles sanitaires. Et d'ailleurs, j'alerte sur le fait qu'il faudra en effet être vigilant à ce que des établissements ne l'exigent pas. Si par ailleurs on ne leur demande pas. Je crois que par exemple pour ce qui est des restaurants, il n'est pas prévu qu'on demande le pass sanitaire pour les restaurants. Donc il faudra veiller aussi à ce que des responsables d'établissement n'exigent pas ce pass sanitaire.
Adrien
Je crois
Quatenas.
Que les tests et des protocoles sanitaires doivent permettre que la vie reprenne, mais j'insiste, tout en limitant la circulation du virus, car ne croyons pas que cette épidémie soit terminée.
Beaucoup de magasins, de petits commerces mis en difficulté par la crise demandent le droit de pouvoir ouvrir le dimanche. Y êtes-vous, compte tenu des circonstances, favorables ?
Non, parce que je considère que les salariés de ce pays ont payé un lourd tribut dans cette crise sanitaire et que le temps libre doit être préservé. Voilà. Et y compris si c'est un temps déconfiné qui va nous permettre de nous retrouver. Voilà.
Mais là, ce sont des petits commerces, hein, des petits commerçants qui le demandent.
Mais moi, je suis pour
qu'ils sont souvent tout seuls dans leur boutique.
Je suis pour qu'on les soutienne économiquement.
Mais ce qui a été fait quand même.
Je ne suis pas
ce qui a été fait ou pas?
Bien sûr, sur ce point, bien évidemment. Mais je suis pour que l'on ne fasse pas du temps libre un temps contraint au prétexte qu'il y aurait la crise. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit les Français dans leur grand nombre qui payent la crise. Thomas Soto, un instant quand même, en pleine période de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine de 55%, avec des sommes où on est passé de 230 milliards de patrimoine cumulé à 477. Je ne tolère donc pas qu'Emmanuel Macron veuille faire payer cette crise aux Français, notamment par sa réforme de l'assurance chômage, qui vise à faire 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, à qui il va rendre l'indemnisation plus difficile d'accès et avec des effets d'inégalité que les calculs de l'UNEDIC ont montré.
Alors ça, vous m'emmenez vers le chemin de la présidentielle. La France Insoumise a présenté aujourd'hui une garantie.
Tous les chemins mènent à Rome.
On a bien compris que chez vous et chez beaucoup de politiques en ce moment, tous les chemins et toutes les questions mènent à la présidentielle.
Mais attendez, pour une raison que tout le monde comprend, c'est que compte tenu...
Ce qui n'est pas illégitime en démocratie.
Compte tenu des enjeux, compte tenu de la situation que nous avons sous les yeux et des pouvoirs que cette élection confère, c'est sans doute la seule qui est à même d'intéresser les Français dans la période que nous vivons.
Alors LFI a présenté une garantie d'emploi. L'idée, c'est de proposer une activité payée au SMIC ou une formation rémunérée à tout chômeur. Est-ce que c'est à dire que demain, dans le monde de la France insoumise, tous ceux qui n'auraient pas de travail deviendraient en quelque sorte des fonctionnaires payés par l'État?
Alors d'abord, nous faisons une campagne sur le programme. Et aujourd'hui sort en librairie notre troisième revue sur les questions sociales, après que la deuxième était sur la planification écologique et la première sur la démocratie. Tout ce matériel se retrouve en librairie. C'est important de faire une campagne sur le fond, sur le programme. On arrête de discuter de la couleur des cravates des uns et des autres, qu'on parle de fond. Alors vous avez raison, Thomas Soto, notre diagnostic est le suivant. Tout n'a pas été fait face au chômage de masse notre pays. Et on atteint un nouveau record. Cette majorité est la majorité de tous les records. Bientôt 12 millions de pauvres en France, 300 000 personnes dans la rue et 7 millions d'inscrits à Pôle emploi depuis janvier 2021.
Il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même eu une crise sanitaire qui a un peu changé les choses et que le chômage était plutôt en repli jusque-là.
Mais il ne m'aura pas échappé non plus, Thomas Soto, que toutes les politiques néolibérales en matière de lutte contre le chômage, qui visent à flexibiliser le droit du travail, à faire des exonérations de cotisations sociales ou à baisser les impôts de production, sont inefficaces. Thomas Soto, nous avons 7 millions d'inscrits à Pôle emploi, je vous le disais, pour quelque chose comme, on nous parle souvent, de 300 000 emplois non pourvus. Ce qui veut dire que même si vous mettez tous les chômeurs disponibles dans les cases vides qu'il y a de disponibles, il vous reste une masse considérable de chômage. Alors nous voulons en sortir avec cette logique qui viserait à renoncer au plein emploi. Jean-Luc Mélenchon est le candidat du plein emploi. Et ce système de garantie de l'emploi...
C'est aussi le candidat des 32 heures, c'est aussi dans votre programme.
On y vient, mais ce système vise à dire que tout chômeur volontaire qui souhaite travailler doit se voir en dernier ressort, si le marché de l'emploi, comme on dit, n'en est plus capable, proposer un emploi qui réponde à ses qualifications et à des missions, notamment des emplois verts ou des missions d'aide à la personne, parce qu'il y a beaucoup de travail et de tâches à accomplir, mais trop peu d'emplois créés et souvent de l'emploi trop précaire.
Donc là, vous dites que le plein emploi dépend d'une volonté politique.
Bien sûr, mais vous savez que le droit à l'emploi est un droit qui est inscrit dans notre Constitution. Même la Constitution de 58 le reprend, elle dit « toute personne a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Et bien, nous voulons faire en sorte que ce droit à l'emploi soit réel et nous ne voulons pas nous en remettre sans cesse à un marché de l'emploi qui, en plus, utilise le chômage pour faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Si le marché du travail, comme on dit, n'est pas capable d'accomplir toutes les tâches que nous avons à accomplir face aux défis que nous avons devant nous, comme la bifurcation écologique, alors nous prendrons nos responsabilités, nous le ferons.
Et on aura l'occasion de revenir sur
chaque femme, chaque homme, Thomas Soto, j'en finis là, chaque femme, chaque homme aspire à vivre dignement de son travail. Et nous avons de quoi proposer du travail pour tous.
Cela dit, pour mettre en place ce programme, il va falloir arriver au pouvoir. Alors là, c'est pas gagné. La gauche, c'est autant de candidats que de divisions. Par exemple, avec les Verts, c'est mort. Les écologistes ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Ça, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans Le Monde aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon qui les traite aussi de faucheton, de menteur. Jean-Luc Mélenchon brutalise le débat public. Ça, c'est la réponse de Yannick Jadot. C'est vrai qu'on a plus l'impression qu'on est entre ennemis plutôt qu'entre alliés, là.
C'est mort, cette
illusion du candidat commun de la gauche, honnêtement.
Mais Thomas Soto, interrogez les uns et les autres, parce que voyez-vous, dans l'élection régionale, par exemple, toutes celles et ceux qui chantent sans cesse les couplets de l'union de la gauche excluent la France insoumise de cadre
vous
commun.
Vous visez les Verts dans les Hauts-de-France et
alors que la France insoumise fait ce qu'il faut. Nous, dans ces régionales, nous faisons la démonstration de notre capacité de travailler avec tout le monde, dès lors qu'on
mais
est
vous
sur
y croyez sincèrement, est-ce que vous croyez à une candidature unique de la gauche en 2022,
Jean-Luc Mélenchon ne cesse de dire, depuis le début de cette campagne présidentielle, qu'il a une vocation de candidat commun. Et vous n'aurez pas échappé que les sondages montrent que, quelle que soit la configuration, il est à gauche le mieux placé et souvent de loin.
Alors, sauf que le PS veut y aller, le PC va y aller, et il a déjà son candidat Fabien Roussel.
Voilà,
on a l'impression que vous faites exactement exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour.
Non, justement. Par contre, j'interroge Thomas Soto. Je pense que parmi les interlocuteurs que nous aurions peut-être et que vous avez cités, et c'est un problème pour nous, certains d'entre eux partent perdants. Mmh. Ils pensent, je le dis, que 2022 est perdu. Ce n'est pas notre cas.
Vous pensez à qui, là ?
Je pense à ceux que vous avez cités.
Donc le PS, le PC, Jadot.
Le PS, je pense que malheureusement, nos interlocuteurs pensent que 2022 est perdu et donc sont dans une autre logique, qui est une logique de, finalement, préservation des appareils. Mais moi, je le dis, Jean-Luc Mélenchon l'a dit récemment, compte tenu de la pente des événements, en matière écologique, en matière sociale, en matière de démocratie, quand on voit y compris l'arrivée potentielle de l'extrême droite aux portes du pouvoir, 2022, a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la dernière station avant le désert. Tous ceux qui font des calculs sur les étapes d'après se trompent lourdement. Alors nous voulons faire une campagne sur le fond, introduire des thèmes qui permettent de bâtir une majorité d'adhésion dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs que ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon fera son premier meeting déconfiné en plein air à Aubin dans l'Aveyron.
J'ai une dernière question. Il y a une bataille qui semble être perdue déjà pour la gauche, c'est PACA, la région PACA. Les sondages montrent que dans toutes les configurations, que ce soit un duel triangulaire, quadrangulaire, aujourd'hui c'est la liste du Rassemblement National menée par Thierry Mariani qui l'emporterait. Adrien Quatennens, on est vraiment au bout, donc je vous demande d'être simple et concis, s'il vous plaît. Si cette situation se confirmait, est-ce que la France Insoumise ferait jouer le Front Républicain pour faire barrage au Rassemblement National en PACA ?
Les gens en ont ras-le-bol de cette affaire de barrage, Thomas Soto.
Donc c'est non.
Ils en ont ras-le-bol. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en PACA, les écologistes sont irresponsables. Premier acte, ils ont exclu du cadre commun la France Insoumise. Et deuxième acte, une fois exclus, ils se divisent entre eux dans une région où on sait que le
risque RN existe. Si le Rassemblement National est en position de l'emporter en PACA, vous ne ferez pas tout pour l'empêcher de gagner.
Écoutez, la meilleure manière d'empêcher le Rassemblement National de gagner, c'est pas d'appeler sans cesse à faire barrage. Entendez-moi, les gens en ont plein le dos. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre, et d'une chose en particulier, et je m'arrêterai là, c'est que pendant que Marine Le Pen fait sauter à la corde tout le monde, y compris les responsables de La République En Marche, sur son calendrier et son agenda, on oublie de dire que Marine Le Pen est la candidate prête à être adoubée par le système. Vous l'avez vu dire « il faut rembourser la dette ». Moi, je le dis solennellement à votre micro ce soir. Les personnes des milieux populaires qui pensent qu'en votant pour Madame Le Pen, on met un coup de pied dans la fourmilière, se trompent lourdement. Partout où les amis de Madame Le Pen sont au pouvoir en Europe, les affaires se portent bien et continuent. Si vous voulez une alternative populaire, clairement, regardez-y, regardez le programme. Ça se passe avec Jean-Luc Mélenchon.
Donc il sera candidat quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, Jean-Luc Mélenchon.
Mais aujourd'hui, il est de loin le mieux placé.
Donc
c'est
il sera
un point d'appui. Mais moi, je le souhaite et bien évidemment, nous faisons campagne pour gagner, Thomas Soto, pas pour témoigner. Alors celles et ceux qui veulent nous aider, arrêtez de regarder leurs chaussures et se rassembler. Ça se passe sur noussommespour.fr oui. Et regardez ce que nous proposons.
Merci Adrien Quatennens d'être venu.
Merci de m'avoir invité.
De voir ce soir et je pense que ma maman aura été sensible au fait que vous me citiez aussi souvent pendant cette interview. Merci à vous. À suivre, l'œil de Valérie Trierweiler qui se pose ce soir sur l'autre 10 mai, celui dont on a beaucoup moins parlé cette semaine et Valérie le regrette amèrement.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le rappel.
Plus de 420 km de bouchons en Ile-de-France ce soir. Bison futé voie rouge dans le sens des départs pour ce pont de l'Ascension. Drapeau orange au niveau national. La SNCF attend 1 million de voyageurs dans les gares d'ici dimanche. J-7 avant la réouverture des terrasses, des musées, des cinémas. Deux concerts tests auront lieu. L'un à Paris, l'autre à Montpellier. Celui de Marseille n'a pas été retenu en raison du protocole plus léger. Trop de risques de contamination selon Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Le procureur de la République de Nîmes appelle le fugitif des Cévennes à revenir à la raison et à déposer les armes. Deuxième jour de traque. L'homme est recherché après avoir tué un collègue et son patron sur son lieu de travail hier dans le Gard. Il serait lourdement armé. Et puis en football, demi-finale de Coupe de France ce soir. Le PSG affronte Montpellier à 21h.
La météo Peggy, week-end pluvieux, week-end heureux.
Heureux, j'en sais rien, mais pluvieux, ça c'est sûr.
Non, vous êtes très positif, j'essaie de vous aider un peu.
Non mais c'est vrai, vous avez raison de positiver. Mais c'est vrai que ce week-end sera bien, bien maussade. Demain, jeudi de l'Ascension, sous les nuages, des averses. Alors, souvent faibles et ponctuelles hein, sur les trois quarts nord du pays, sauf vers la Normandie où là, il va pleuvoir toute la journée. Entre la Bretagne et les régions centrales, on aura des averses orageuses l'après-midi. Et la journée va bien commencer dans le sud-ouest. Il faudra en profiter, ça ne va pas durer. La pluie va arriver également. Finalement, seule région épargnée par ce mauvais temps, c'est entre la Méditerranée et la Corse, mais avec beaucoup de vent. Et les températures, elles sont toujours fraîches. Malheureusement, c'est toujours pas ça. De 13 à 22 degrés.
Merci, Peggy. Nous sommes mercredi. Valérie Trierweiler est avec nous. C'est l'œil de Valérie. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de l'autre 10 mai, pas le 10 mai 81, l'autre, non. L'oublié.
Non, parce qu'effectivement, le 10 mai, ce n'était pas seulement les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. Il y avait un autre anniversaire dont on a beaucoup moins parlé. Mais enfin, tout de même, il s'agissait des 20 ans de la loi Taubira, celle qui a permis à la France de reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité.
Et alors, que s'est-il passé lundi pour commémorer tout ça ?
Eh bien, rien. Il s'est quasiment rien passé, Thomas. Alors qu'il s'agissait d'un rendez-vous très attendu. Je vous fais un petit rappel. Mmh. Emmanuel Macron a commémoré le bicentenaire de Napoléon. Alors que ce dernier, vous le savez, il a rétabli l'esclavage en 1802. L'esclavage qui avait été aboli en 1794. Alors, les associations l'attendaient au tournant. Elles voulaient un rééquilibrage. Comme chaque année, depuis 2006... Ça a été à l'initiative de Jacques Chirac. Il y a une cérémonie au jardin du Luxembourg à laquelle assistait un certain nombre de personnalités, dont Jean-Marc Ayrault, qui préside la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il y a eu plusieurs discours. Et puis au moment où chacun s'attendait à ce que le président Macron prenne la parole, rien. Il ne s'est rien passé, rien d'autre que le silence. Vous savez, hein, pas le genre minute de silence, pas le silence solennel, mais le silence assourdissant. Puis il est parti.
Alors on imagine que ça a dû susciter quelques réactions, tout ça, ce silence.
C'est le moins qu'on puisse dire. Dans la minute qui a suivi, Christiane Taubira a immédiatement fustigé le président de la République. On écoute un extrait.
Il est quand même édifiant de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l'histoire de la France, alors qu'il y a cinq jours, il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte.
Vous voyez, elle a attaqué, elle a critiqué, elle n'a pas été la seule. Une grande partie de la gauche s'est émue de ce silence en dénonçant, je cite, un silence coupable ou encore un silence d'une grande violence. Bon, je pense que quelques collaborateurs sont venus le voir en disant que ça montait un peu sur les réseaux. Donc il s'est fendu lui-même d'un tweet de quelques lignes, mais dans lequel il omettait de citer Christiane Taubira. Mmh.
Comment explique-t-on ce silence, à votre avis ? Quelles conséquences a-t-il eu d'ailleurs ce silence ?
Eh bien, vous savez, il ne s'agit pas là simplement d'une passe d'armes entre deux politiques de deux camps adverses. Emmanuel Macron s'est mis à dos tous les ultramarins et tout ce que la France compte de descendants d'esclaves. On estime qu'ils sont environ 2,5 millions en France. Et au-delà d'eux, c'est toute la communauté noire qui s'est sentie touchée.
Mais selon vous, le regard que vous portez là-dessus, il y a des raisons politiques derrière ça ou pas ?
Mais enfin Thomas, à un an de la présidentielle, tout est politique, tout est politique. L'historien François Durper a commenté juste après qu'il y avait sans doute une mémoire de droite et une mémoire de gauche. Alors ce silence est d'autant plus incompréhensible qu'il y a deux ans, lors de la même cérémonie, Emmanuel Macron avait fait un discours très honorable et des promesses dans lesquelles il assurait que l'esclavage était notre histoire, que les conséquences de ce passé étaient toujours là. Et puis à l'époque, il disait même du cher Christiane Taubira. Alors les temps ont changé, il veut sans doute s'adresser à d'autres personnes. Et au moment où Emmanuel Macron veut se recentrer sur le régalien, je vous le demande, qu'y a-t-il de plus régalien que de réconcilier un pays avec son passé ? Qu'y a-t-il de plus régalien que de vouloir renforcer la cohésion de la nation ? Bon, bah son silence risque de renforcer au contraire cette marche du 23 mai, celle qui, depuis 1998, rend hommage aux victimes de l'esclavage. Et Emmanuel Macron, par son silence, aura sans doute encouragé une forme de séparatisme. Écoutez ceci.
Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés pour qui ces ignobles entraves et fers dès longtemps préparés français pour nous? Quel outrage, quel transport il doit exciter, c'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage aux armes citoyens.
Abdelmalik.
Voilà, Abdelmalik, quel outrage, rien de mieux à dire.
C'est un peu la magie de la radio, vous arrivez à faire 3 minutes sur un silence. Fut-il un silence présidentiel ?
Et j'aurais pu vous en faire beaucoup plus.
J'ai bien senti, merci beaucoup.
Merci.
Valérie. Demain c'est Philippe Cavrivière qui sera là et nous on se revoit la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu chanter, elle revient avec un nouvel album dans quelques secondes. Hélène Ségara est l'invitée d'RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Son nouvel album Karma sortira le 11 juin prochain. Hélène Ségara est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Hélène
Bonsoir,
Ségara.
Bonsoir, merci.
Alors avant Hélène Ségara, c'était ça.
Il y a trop de gens qui t'aiment. Et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne. Cet amour avec toi.
Et alors aujourd'hui, c'est plutôt ça.
Illusion dans le système. Le duel est connecté. Sur le coup. Sans nos graines, ça dépassait. Illusion dans le
Illusion dans le système, extrait de cet album à venir, votre 13e album qui va s'appeler Karma. Il y a, Hélène Ségara, un changement de style, un changement de forme, un changement sur le fond aussi.
Oui et non, c'est toujours la même personne. Vous savez, Illusion dans le système, c'est un trop de gens qui t'aiment d'aujourd'hui, parce que finalement ça parle de notre difficulté sur les réseaux sociaux, de ces pseudo-rencontres qu'on peut faire, qu'on cherche, de cette âme sœur, de tous ces outils qui sont là pour nous relier et qui en même temps nous laissent un goût de solitude profonde, donc, et surtout beaucoup d'illusions. C'est Illusion dans le système, c'est vraiment tout ce qu'on essaie de refléter et qui est totalement fake, quoi.
À qui confier qu'on se sent seul à crever, écrivez-vous.
Mais oui, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'amis sur les réseaux sociaux, qui postent des choses magnifiques, très bling bling, et puis derrière, ils sont dans une tristesse et une solitude absolue, et c'est de plus en plus. Je communique beaucoup, moi, sur Instagram.
Vous êtes très, très accro, vous, aux réseaux sociaux, non ?
Oui, oui, je suis beaucoup, particulièrement sur Instagram, et je parle beaucoup avec mes followers, parce qu'ils sont très mignons, très fidèles, et je me rends compte que finalement... ça coûte rien, un petit mot de temps en temps. Je peux pas le faire tous les jours parce qu'ils sont nombreux, mais il y a toujours un moment où je vais aller liker un post ou une petite phrase qu'on m'a mis, parce que je trouve que pour moi c'est pas grand chose, pour eux ça leur fait plaisir, mais c'est toujours la même personne. Le fond reste quand même très sentimental, très romantique, mais sauf que je pense que les années passent et j'ai envie de dire les choses différemment.
Tous les textes c'est vous, ça c'est nouveau, hein. Toutes les musiques c'est votre mari Mathieu Lecat, et tous les textes c'est vous. Pourquoi d'un coup vous êtes dit, bah si en fait je peux écrire moi-même?
J'ai toujours écrit, j'ai même reçu des prix, mais en fait cet album là il était très particulier. Karma, c'est vraiment un album où j'ai mis 2 ans à écrire. Et je savais principalement, je savais vraiment ce que j'avais dans les sens envie de dire dans cet album-là. Surtout après autant d'années d'absence, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait d'album original. Et je voulais prendre mon temps et je voulais surtout que ça soit quelque chose de vrai, du début à la fin.
Et la particularité, c'est que vous l'avez autoproduit, comme le font parfois les chanteurs et les chanteuses qui débutent. Sauf que vous avez quand même vendu plus de 12 millions d'albums. Comment ça se fait? Les maisons de disques ont dit non, ça ressemble pas assez à du Ségara, donc tu vas te débrouiller toute seule?
Non, je pense que je voulais pas être bridée dans un, parce qu'il y a quand même un fond spirituel sur cet album. C'est un album qui parle aux consciences, mais toujours avec plein d'amour. Et je voulais pas qu'on mette la moindre frontière. Je voulais pas, comme je dis toujours, les concessions sont toujours bonnes à prendre ou les conseils sont toujours bons à prendre quand nous permettent d'évoluer, d'avoir du recul. Mais là, je savais précisément ce que j'avais envie de dire.
Les maisons de disques, pardon, vous laissent pas assez libre? Aujourd'hui, quand on est artiste, on vous dit bon, ok, on te signe, mais là, tu vas un peu comme ça.
Ils ont tendance, je l'ai vécu pour mes derniers albums, quand même à nous forcer un peu la main pour qu'on fasse des albums de reprise, parce que eux aussi ont très peur de l'échec, mais ils se rendent pas compte. En fait, aujourd'hui, je pense que cette société laisse de moins en moins de place à l'échec, et je trouve que c'est ce qui met la pression aux humains, parce que tout simplement, l'échec, c'est ce qui nous apprend. Les grands sportifs le savent. Hein, le problème de tomber, c'est douloureux de tomber pour un sportif, mais c'est ce qui fait qu'il va se relever la fois d'après.
On n'a jamais perdu quand on a appris Gandhi, etc.
Exactement.
Vous craignez pas de désorienter un peu votre public, qu'il ait du mal à vous retrouver?
Alors, il y a 2 premiers singles qui sont extraits de cet album déjà, et la réaction de ma fanbase, ma vraie pure et dure fanbase, est très très positive. Mais surtout, je reçois énormément de témoignages de gens qui ne me suivent pas d'habitude, donc ça c'est surprenant. Je crois que mon public qui grandit avec moi, vous savez, après 25 ans de carrière, moi j'ai plutôt un public d'ados à la base, et j'ai des gens plutôt jeunes. Alors j'ai toujours des gens très jeunes, curieusement, et les gens qui sont devenus trentenaires ou quadras, ils sont contents de cette évolution.
Puisque vous parlez du temps qui passe, est-ce que vous vous souvenez de ça, Hélène Ségara?
Oui, je m'en souviens.
C'est
première maquette, quand je suis arrivée à Paris, je ne sais pas, vous avez trouvé ça? C'est la première maquette que j'ai faite en arrivant à Paris, sauf que je me suis découragée en me disant je ne suis pas faite pour cette ville, et je suis repartie.
Mais ça, vous l'avez chanté, c'est ce qu'on a pris d'extrait, c'est sur le plateau de Pascal Sevran, la chance aux chansons. Ça fait presque 30 ans. Il vous avait appelé, je crois, Elena Ségara, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Quand vous regardez le chemin parcouru, vous vous dites quoi?
Je me dis que on a toujours tendance à focuser sur les difficultés qu'on trouve sur notre route. Mais
vous n'avez pas été épargné par les difficultés, vous?
Non, c'est vrai, mais ça m'intéresse pas de m'apitoyer. Et quand je regarde dans le rétro, je me dis je suis restée debout et j'ai continué à avancer sur mon chemin. Et ce qui est génial, c'est que sur cette route, j'ai rencontré des gens incroyables. Ouais. Donc je suis quelqu'un qui se réjouit. Je suis heureuse de mon chemin.
Vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas à être quelqu'un d'autre ou à paraître quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Vous avez des soucis de santé, vous en avez parlé, hein, c'est pour ça que je me permets de le faire.
Un peu obligé, ouais.
Vous êtes atteinte d'une maladie des yeux. Déjà, est-ce qu'on peut vous demander comment ça va là ?
C'est toujours présent. Je suis toujours suivie par de grands professeurs. Je subis toujours des implants, etc. Mais je me dis que... Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et surtout, il y a des gens qui ont un diagnostic vital qui est en jeu. Mmh. Alors moi, j'en suis pas là. Et je me dis, il faut que je sois forte, il faut que je travaille. Et surtout, il faut que j'amène ce message aux gens, c'est-à-dire que rien n'est insurmontable.
Mais est-ce que dans le showbiz, être malade ou reconnaître ça, ça isole ?
Oui.
Ouais.
Oui, ça je le dis, parce qu'en fait, beaucoup de gens m'ont tourné le dos au moment le plus critique, c'est-à-dire au tout début, quand les choses ont démarré, on était vraiment désarmés, ça a pris une tournure très très difficile au départ, et surtout, on m'a annoncé des diagnostics qui n'étaient pas bons, et assez graves, et à ce moment-là, la moitié du métier s'est détournée de moi en pensant que j'étais foutue, tout simplement, mais ça ne m'a pas découragée, au contraire, je me suis dit non, je vais leur montrer que je ne suis pas foutue.
Parmi vos tubes, il y a aussi celui-là, Hélène Segarra.
Ma grande copine, ma grande amie.
Laura Pausini. Si vous commencez le live, on va pas s'arrêter. Hein, vous voyez,
hein. Bon, même pas compte.
Alors, la version karma de On n'oublie jamais rien, ça pourrait être plus jamais, non ?
Elle est moins légère, quand même.
Elle est moins légère. Hein.
C'est pas la plus légère de cet album. Mais... En fait, plus jamais, c'est une chanson qui parle de notre capacité à scier la branche sur laquelle on est assis et d'être les témoins de nos vies, témoins des événements et de se dire qu'on est trop faible, trop petit pour changer quelque chose. Alors oui, on est tout petit, mais à plusieurs, on est déjà plus costaud.
Il y a un contraste entre votre façon d'être, votre sourire, vos yeux qui pétillent et ce que vous chantez là.
Mais parce que on est tous un peu ça.
Vous êtes noir au fond.
Non, je suis pas dark. Non. Je suis très solaire. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je l'ai été, hein. Je l'ai été dark. J'ai eu des années difficiles, très difficiles. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand ma maladie s'est déclarée, je me suis dit, bon, j'ai deux options. Soit je m'effondre, soit je me bats. Et comme j'ai des enfants, comme j'ai beaucoup d'amour, comme j'ai beaucoup d'amis, je me suis battue. Et à ce moment-là, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas. J'ai commencé à intervenir dans des conférences sur la pensée positive, sur la force du mental. Et j'ai même commencé un bouquin. Voilà. Et je me suis dit...
Vous êtes devenue mystique ?
J'ai toujours eu un peu de mysticisme en moi, puisque j'avais un peu de médiumnité. Mais je ne suis pas... En fait, j'ai toujours dit que le mysticisme ou la foi, il doit y avoir deux ailes pour qu'un oiseau vole. C'est-à-dire, moi, il me faut la réalité et le rêve. Il me faut les deux. Donc, il me faut la mysticité, mais il me faut aussi la réalité. La mysticité, c'est un nouveau mot.
Mysticisme, on pourrait s'arranger aussi, mais je crois qu'on avait compris
bien
l'idée.
On le dépose ce mot-là.
Ça peut tout passer dans le discours en ce moment. Le reconfinement, déconfinement, cluster, tout ça. Donc peut-être que l'année prochaine, à votre nom, il y aura marqué mysticité. Vous serez en concert les 25 et 26 septembre au Trianon à Paris. Concert suivi d'une tournée en octobre. Vous y chanterez vos tubes aussi.
Évidemment. Ouais. Évidemment. Moi, je trahis pas mon public. C'est-à-dire que si je sais que si j'arrive et que je ne fais pas un Vive au Perleil ou un Trop de gens qui t'aiment, les gens vont être très déçus. Et je serai aussi en manque. J'aime ces chansons.
Merci beaucoup Hélène Segarra d'être venue nous voir. Je précise qu'on vous retrouve dans La France a un incroyable talent en ce moment et dans la nouvelle émission d'M6 Show Me Your Voice.
Oui. Hein,
votre album Karma sortira début juin. Est-ce que vous m'en voulez si on termine avec un extrait de Notre-Dame de Paris ?
Absolument pas, j'adore ça.
Vivre par exemple ?
Oui.
Allez. N'entendez pas, c'est que j'ai toute la régie qui chante dans mon casque.
C'est vrai.
Et ils chantent beaucoup moins bien que vous.
C'est pas ma préférée du spectacle, mais j'ai beaucoup aimé la chanter, mais j'aimais beaucoup l'Ave Maria Païen, j'aimais beaucoup Lune de Bruno Pelletier. Enfin, il y a eu vraiment des très belles chansons sur cette comédie musicale.
Merci en tout cas, Hélène Segarra, d'être passée par le studio de RTL ce soir. Merci beaucoup. De choisir sa vie
sans un anathème. C'est bien, hein, c'est... Sans un
anathème. Vous êtes encore à l'antenne, hein ? Vous êtes encore à l'antenne ? Oui, mais allez-y, dites-nous ce que vous pensez. C'est toujours bien d'avoir le débrief.
Je vais faire un débrief.
Oui, dites-moi.
Que des punchlines, que des bonnes questions.
Ouais.
Et du rythme.
Vous avez envie d'être réinvité, hein.
Oui, bah oui, pourquoi pas.
Merci beaucoup, Hélène Segarra. Il y a déjà du monde sur les routes du week-end de l'Ascension. Beaucoup de camping affiche complet d'ailleurs, mais rassurez-vous, Guillemette Franquet a gardé une petite place pour la culture de l'actuel.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.
La culture de l'actu avec vous, Guillemette Franquet. Bonsoir Guillemette.
Bonsoir Thomas.
Bon, on estime qu'il y a à peu près 12 millions de Français qui vont partir pour ce pont de l'Ascension. Les campings sont complets, ils font plein de réservations. Et vous êtes dit, tiens, bah, c'est l'occasion de prendre un sac de couchage et une tente et de nous emmener en voyage.
Exactement. Synonyme de vacances, nature et soirée en maillot de bain, eh bien, le camping, c'est vraiment un univers.
Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage.
Ça part fort.
Boris, il aime bien la mer. Et en plus, l'été, sur la plage, c'est pas le meuf.
Miss Camping, vous connaissez ce tube du chanteur Boris, je sais Thomas, qui vous a fait danser dans les années 90.
Vous me surestimez.
Alors avec sa réputation de haut lieu de la drague lourde, de concours de t-shirts mouillés.
Je vois où vous me voyez, très bien, je félicite.
Et de danse des tons que j'avais pas fini, eh bien le camping n'a pas toujours bonne presse. Et il y a un film cultissime qui l'a immortalisé, c'est évidemment Camping en 2006.
Pastis partant bleu,
pastis délicieux.
Alors ? On n'attend pas Patrick.
Et c'est évidemment
Patrick Chirac.
Chirac, on se souvient de son slip de bain et de ses règles du camping dont certaines n'auraient pas déplu au gouvernement.
Je vous rappelle les basiques. On range son bol. Et bien évidemment, ici, pas de drogue. No stupéfiante.
Ça, c'était dans Camping 3 en 2016. Mais ce sont des vieux clichés, bien sûr. Désormais, 8 Français sur 10 ont une bonne opinion du camping, selon un sondage IFOP de l'an dernier. Et il faut dire que le camping a beaucoup évolué.
Ah oui, parce que le camping, ça date pas du tout d'hier. Hein. Vous avez fait des recherches. Les premiers à dormir sous la tente, eh ben, c'était les nomades. Et on est quoi? On est en 1000 avant Jésus-Christ, à peu près.
Hein. Exactement. Et c'est vrai que, par contre, le camping de loisirs tel que nous, on le connaît, eh bien, c'est d'abord une activité de bourgeois. Et oui, au 19e siècle, ce sont eux qui veulent quitter l'air pollué de la ville et se ressourcer à la campagne. Vous avez peut-être reconnu la voix d'Eddie Vedder dans la bande originale du film Into the Wild. Le personnage se construit un bivouac dans la forêt de l'Alaska avec un van pour seul abri. C'est le retour à la nature du héros en solo. Il rejette la société. Bon, là, c'est vraiment l'idéal du camping poussé à l'extrême.
J'ai un vrai problème avec ce film, c'est que à la fois je l'ai adoré et je crois que je ne me suis jamais ennuyé comme ça. Mais j'ai un problème, je ne sais pas.
C'est contemplatif.
Bah, ça doit être ça. Bon, on a compris que le camping loin de la ville, c'est aussi un apprentissage de la vie et c'est un retour aux racines, guillemets.
Et ça, c'est exactement la philosophie du scoutisme. Dormir sous la tente, cuisiner au feu de bois. C'est Robert Baden-Powell qui a créé les scouts en 1907. Il voulait transmettre des valeurs à nos enfants et aussi un peu les faire grandir en accéléré.
C'est vous dire qu'avec un chef tel que Jean-Baptiste, les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre.
Depuis que je suis parti, ces petits monstres n'arrêtent pas de me persécuter. Ça fait 2 nuits que j'ai pas fermé l'œil. Moi, il me faut mes 9 heures. On est les scouts, on lève le camp !
Bah pourquoi on était bien là ?
Bon, ça, c'est aussi un peu l'apprentissage de la vie pour les chefs scouts. Vous avez entendu Gérard Jugnot, il était complètement dépassé dans le film Scout Toujours en 1985. Et en tout cas, le camping, c'est un amour partagé en Europe. En France, on croise souvent dans nos campings des Belges, des Allemands ou des Anglais.
Je suis à la poursuite de bandits qui ont fui en auto. Vous voulez m'aider ? Il faut les arrêter.
Oh yes, very exciting. Vous montez derrière.
Évidemment, nous n'avançons pas très vite. Mais c'est mieux que rien.
Et ça, c'était Tintin pris en autostop, enfin en caravane stop par des Anglais dans l'île Noire. Bon, avec la caravane, pas très pratique de faire des courses poursuites.
Merci à vous, Guillemette.